Je voulais faire une remarque. Donc, on vient de Genève et donc on a aussi quelques soucis avec l'enseignement des arts. Et je remarque, on est responsable donc d'un certain nombre d'enseignants. Et je trouve que la dernière remarque que vous avez faite est quelque chose de tellement important, justement, qu'un bon enseignant est quand même quelqu'un qui est en marche et qui est en exploration constante. Et que c'est pas parce qu'on a fini une école d'art que définitivement on est un bon enseignant. Et en tout cas, moi, je remarque dans le nombre d'enseignants qui œuvrent à Genève, qu'il y en a quand même une bonne moitié qui se sont un peu arrêtés, c'est-à-dire qui ne fréquentent plus les musées, qui on dirait que l'art ne les intéresse plus et qui font une sorte de métier d'enseignant un peu, ils se sont un peu fonctionnalisés, je dirais, et que je pense que ça c'est quand même un des moteurs. Parce que les élèves, quand ils ont face à eux quelqu'un qui est encore en état de recherche, ils le sentent, quoi. Je veux dire, de par le choix des mots, le choix de ce qu'on amène, enfin, la posture, elle est automatiquement différente quand il y a encore cette passion pour l'art qu'on a envie de transmettre. Et je trouve que c'est un élément, en tout cas, qui n'est pas du tout à négliger, quoi.
Alors, juste, je voudrais juste signaler. Peut-être pour insister aussi sur cette dernière phrase que j'ai dite, c'est-à-dire que je pense que l'action et la recherche doivent être beaucoup plus articulées. C'est-à-dire que c'est aux chercheurs de s'approcher au maximum du terrain de l'action, et ça, c'est peut-être que l'université française ne le fait pas assez. Et c'est aussi au terrain, aux formateurs et aux enseignants, de s'intéresser aux travaux de recherche. Moi, j'ai donné une bibliographie comme ça, si vous voulez, je vous la donne en détail. Je pense qu'il faut rendre disponible des savoirs, et un chercheur ne peut pas dire des choses, éclairer celui qui est sur le terrain s'il ne va pas lui-même sur le terrain. Voilà. Et moi, je suis vraiment pour la recherche-action, en fait. Hein.
Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur vos propos liminaires, où vous disiez que l'art est toujours le résultat d'un mixage, hein, quelque part. Et donc la dernière circulaire, celle qui institue les parcours d'éducation artistique et culturelle, parle un des objectifs de tisser un lien social fondé sur une culture commune. Alors je voulais savoir si vous pouviez nous donner quelques éléments de réponse pour définir justement ce que vous entendez, vous, personnellement, par culture commune.
Alors moi je pense que c'est une question de posture. C'est pas des objets, c'est pas les objets qui font la culture, c'est les attitudes, c'est les manières de regarder, de considérer, et c'est toute la définition finalement de la culture telle que je l'ai trouvée chez Georges Simmel, hein, ce texte qui s'appelle La tragédie de la culture. Pour moi, la culture commune, c'est un comportement d'être cultivé qui est tout le temps dans le devenir et qui est tout le temps dans l'action, dans le devenir, mais ce ne sont pas des objets. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on propose, par exemple, des canons de la beauté à enseigner dans l'école. Je pense qu'il y a évidemment des œuvres qui sont plus fortes que d'autres, il y a évidemment des œuvres qui sont plus universelles que d'autres, plus pertinentes aussi. Et là, il y a un gros... Enfin, je pense qu'il y a un impensé énorme sur cette question du choix des objets. Je vois dans des dispositifs... que ceux qui choisissent, qui font les programmations, notamment pour le cinéma, n'ont pas du tout l'exigence qu'on devrait avoir, d'autant plus avec les élèves de l'éducation prioritaire. Quand on propose un mauvais film au programme, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile de s'en sortir. Et il y en a. Et là, donc la culture commune, c'est pour moi, c'est vraiment une question de posture, de manière de voir, de penser, de s'inscrire dans le temps, de s'affilier aux œuvres des autres. C'est une attitude. C'est une attitude qui peut s'apprendre et se construire dans l'école.
C'est juste une petite remarque comme ça que je fais. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on aborde souvent l'œuvre comme une chose à voir, isolée de la politique, de l'économie, de la cité. Je veux dire, tout à l'heure, vous avez montré quand même des œuvres monumentales. Et je trouverais intéressant qu'on puisse vraiment avoir une recherche sur pourquoi on montre ça, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de voir une œuvre comme ça, combien ça coûte, pour qui elle est, qui est-ce qui la finance, qui est-ce qui la décide, c'est quoi un curateur d'exposition, c'est quoi une politique culturelle, pourquoi cette œuvre on la montre, si dans le cinéma on décide de pas montrer certaines choses, pourquoi dans l'art aussi on décide de mettre en lumière certaines choses plutôt que d'autres. À savoir qu'évidemment on ne peut pas hiérarchiser les œuvres, je suis tout à fait d'accord, mais on est quand même en face de volonté économique, politique et diplomatique. Certains artistes sont montrés, pas d'autres, à certains moments, de l'histoire de notre vie, de nos vies, de l'histoire des jeunes dans leur ville, etc. Et je pense qu'il y a vraiment des discussions à avoir avec les élèves là-dessus. C'est-à-dire, à quoi ça sert l'art ? Parce qu'en fait, il ne faut pas être naïf, l'art sert à quelque chose. C'est un bouclier, un faire-valoir, etc. Une dimension esthétique et volonté, on n'est pas loin de la maison bourgeoise, avec le rôle du rideau, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer, pourquoi ? Et est-ce que c'est tabou ou pas, ces questions, finalement ? Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune sur la vérité de l'art ? Pourquoi on lui montre ça ? À quoi ça lui servirait dans sa vie ? Il y a toujours des choix, je veux dire, l'œuvre ne vient pas de nulle part, elle ne vient pas à lui par hasard. Enfin, je veux dire, voilà. C'est tout, c'est une question, enfin, c'est plusieurs réponses, plusieurs questions que...
Alors, moi je pense que vous touchez là un point fondamental. D'ailleurs, c'est une question qui revient régulièrement chez les collégiens. C'est mais ce truc-là, ça coûte cher. La mairie, elle dépense de l'argent pour faire ça. Ça sert à rien. C'est moche, etc. Et vous avez aussi pointé toute la dimension, enfin tout le cynisme finalement qu'il peut y avoir dans une politique culturelle et dans la façon dont l'art contemporain aujourd'hui prend sa place dans la cité, prend sa place dans l'environnement social. Et vous montrez aussi, c'est là où c'est intéressant ce que vous dites, c'est que vous pointez l'écart qu'il peut y avoir entre une politique culturelle, on va dire, bourgeoise, qui privilégie effectivement un certain nombre d'artistes ou de démarches artistiques qui sont extrêmement consensuelles, qui sont peu, qui interrogent peu l'humain dans la façon dont j'ai essayé de le présenter dans mon exposé. Et puis, donc il y a cet écart-là entre cette espèce de politique bourgeoise et puis toute la question des inégalités sociales, des inégalités culturelles, etc. Donc ça, je pense que c'est une question très importante qu'il faut peut-être et certainement traiter au collège, au lycée. Mais je pense qu'avant de la présenter ou de la travailler avec les élèves, il faut vraiment être très au clair sur finalement comment on va expliquer un procédé économique, le marché en fait. C'est la question du marché de l'art que vous posez. Hein, c'est la question du marché de l'art, de sa valorisation et de la façon dont une politique culturelle va valider un marché, ou la façon dont un marché agit sur les institutions culturelles et leurs politiques. Mais je pense que c'est un aspect de la question qui est très important. Et comme ça touche à l'actualité, il faut prendre aussi, nous, beaucoup de distance. Il faut aussi peut-être objectiver cette question-là pour éviter de ramener toutes les passions que vous, qui peuvent vous traverser avec des élèves.
On va annoncer la dernière question. Hein, parce qu'après, il faut qu'on passe à la suite.
Moi, je voulais dire quelque chose. Je viens de l'étranger, je viens d'Italie. Et quand on vient de l'extérieur, on est très étonné de voir le peu de place qu'il y a l'histoire de l'art dans l'enseignement secondaire. C'est-à-dire, voilà, c'est super bien ces projets-là, mais je crois qu'on n'éduque pas en France l'élève à l'histoire de l'art depuis petit. C'est-à-dire que, voilà, il faut questionner quelle place a l'histoire de l'art, pourquoi on fait ça. Je veux dire, à l'étranger, on a, et ici, au lycée, art plastique, c'est une option. Souvent, on le fait entre midi et deux, juste une heure, ou à 6 heures le soir. Donc, je trouve que dans l'éducation ici de l'élève, il n'y a pas la place qu'il faut pour l'histoire de l'art. En Italie, l'histoire de l'art, on le fait dans n'importe quelle série, on le fait comme une discipline, c'est une discipline principale, et on donne une grande importance, et je trouve que l'élève a une éducation à cette discipline qui a déjà une place. Après, voilà, on peut s'intéresser, on peut moins s'intéresser, mais même pour nous, les collègues, on peut travailler avec le collègue de l'histoire des arts. C'est beaucoup plus facile d'avoir un champ de travail dans ce secteur-là.
Je pense que ce qui manque aussi peut-être au système éducatif français, c'est peut-être... Il y a peut-être trop de cloisonnement finalement entre le monde éducatif et le monde des historiens de l'art. Il y a des chercheurs en histoire de l'art qui s'intéressent à la question de la transmission, mais ils sont très peu en France, en fait. Ils sont plutôt en Belgique, en Suisse. En France, il y a plus de chercheurs en sciences de l'éducation qui s'intéressent à l'art que d'historiens de l'art qui se préoccupent des questions de transmission. Donc je pense que le problème vient de l'université.